Divergence FM, l'interview.
Bonjour Manuela Parra.
Bonjour. Alors, bonjour Olivier.
Voilà, on est enchanté de vous avoir parmi nous à Divergence FM parce que vous venez pour présenter un événement d'importance, on peut dire, hein, qui va se dérouler donc à Montpellier, les quatrièmes rencontres franco-espagnoles, culture, engagement et résistance. Bien ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui.
Alors, ça sera du 28 novembre au 2 décembre. On va dérouler un peu le fil de cette histoire. Et puis, vous allez nous parler de l'association qui s'en occupe. Voilà. Alors, écoutez, on va vous laisser faire. Hein. C'est vous qui savez, c'est pas moi.
Merci d'abord de m'accueillir et d'accueillir l'association Voix de l'extrême poésie et culture, qui est une association que j'ai le plaisir de présider et qui puise ses racines en Espagne. Oui. Dans le mouvement poétique et culturel Voces del Extremo, qui fait le pari, par la culture, d'agir sur la transformation sociale.
La voix de l'extrême, les voix de
l'extrême. Les voix de l'extrême, en quelque sorte. Et donc, association qu'on a créée en 2018 en France, avec des poètes, et avec aussi une particularité, c'est-à-dire qu'on a souhaité travailler, nous, les enfants de l'exil républicain espagnol.
D'accord, il y a une base historique, bien entendu.
Bien entendu, on a essayé de travailler sur notre mémoire, sur l'exil de nos parents.
Grands-parents, tout ce que vous avez entendu.
Oui, ou pas, ou qu'on a retrouvé, puisque nos parents ne nous en parlaient pas. Et on a, si vous voulez, fait le pari de mettre en lumière cette histoire par le biais de la culture et de transposer un certain nombre de valeurs qui étaient portées par la lutte des républicains espagnols.
Et il ne faut pas oublier que c'était une tragédie énorme au cœur de l'Europe.
Oui, c'est les premiers pas de la guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Hein. C'est donc en 1936 jusqu'à 1939, hein, à peu près. Hein. Et ces républicains espagnols vont franchir la frontière et hélas, ils ne vont pas être forcément bien reçus.
Non, on ne peut pas dire.
On va dire ça gentiment comme ça.
Et donc, la force de la Seconde République espagnole, c'était de mettre la culture au cœur de l'engagement et de la transformation sociale. Et donc, c'est par ce biais qu'on travaille, et on travaille aussi sur la transmission. Et c'est pour ça que le cœur aussi de notre engagement touche les jeunes.
Vous rendez dans les lycées, hein, vous avez des actions pour rappeler cette mémoire qu'il est important de ne pas perdre, parce qu'on sait très bien que, regardez ce qui s'est passé pour les camps d'extermination nazis, plus on avance dans le temps, plus on perd la mémoire, puisque les gens sont partis. Et donc c'est très difficile après de dire, ah ben oui, c'est vrai, ça a existé. Donc vous êtes là pour ça aussi, pour cette culture.
Oui, et surtout pour... Bon, il y a la perte de la mémoire, mais il y a quelque chose de plus pervers, qui est la banalisation de la mémoire.
Voilà, c'est pas grave. Voilà. C'était avant.
Et on aurait tendance à placer sur le même pied d'égalité le fascisme.
Oui.
Et notamment pour la guerre d'Espagne, les fascistes Hitler, hein. Mussolini.
Oui.
Ce qu'on aurait tendance à appeler les nationalistes.
Oui.
Et les républicains qui se sont battus avec peu d'armes pour défendre une république sortie des urnes.
Oui,
voilà.
Comme si c'était pareil, quoi. On les mettait sur un pied d'égalité, quoi. Voilà. Il y avait deux camps.
Voilà, il y avait deux camps, et ça, c'est inadmissible pour nous, les enfants de l'exil, notamment.
D'accord. Alors, rapidement, on va dérouler un peu ce qui va se passer. Alors, le mardi 28 novembre, vous serez au lycée Juliette.
Oui, comme chaque année, devant 300 élèves.
Et là, dites donc, et vous participerez même vous à l'art dans les camps, l'œuvre et les messages.
Oui, parce que c'est, si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les républicains plaçaient la culture et l'éducation populaire au cœur de leur engagement. Et ils ont laissé un témoignage pictural et littéraire jusque dans les camps qui témoigne de leurs conditions.
Et j'ai vu que vous allez programmer ce fabuleux film que je connais pour l'avoir vu et revu même, le film d'animation Joseph.
Oui.
Ça, c'est un film absolument à voir et qui mieux peut-être qu'un documentaire. Hein.
Tout à fait.
Ça raconte vraiment ce qui s'est passé et avec ces très beaux dessins. Très, très
avec
beau,
le ça. Soutien.
C'est Aurel, hein,
Aurel qui sera présent, mais c'est ouvert qu'aux lycéens.
D'accord, j'ai compris. Là, c'est pas pour le public. C'est, non, ça, c'est dans c'est, le cadre de vos fonctions avec l'éducation nationale, tout simplement.
Oui, oui, on y tient absolument.
Par contre, le mercredi 29, ça sera au Gazette Café. Là, c'est au public.
Oui.
Alors là, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, c'est à 18h au Gazette Café. Et là, on a souhaité mettre en lumière la littérature et l'engagement. Mmh. Et notamment, tous ces artistes au moment du pacte de non-intervention et tous ces écrivains qui se sont engagés pendant la guerre d'Espagne.
36-39, donc il voilà. Y avait même une reconnaissance internationale des écrivains.
Tout à fait.
Il y en a des très célèbres qui se sont rendus en Espagne à cette époque.
Comme Malraux, par exemple.
On peut penser à André Malraux, bien sûr.
Et donc, par rapport à ça, ce sera Pierre Berland, avec qui je travaille depuis des années sur, et qui est prof à l'université. Au lycée Jules Gued, prof d'histoire.
Et aux binationalités, hein, c'est ça.
Voilà,
franco-espagnol.
Oui, oui. Et qui va présenter cette. D'ailleurs, il va publier un livre en 2025.
Hein. On mettra sur l'article pour qu'on puisse aller trouver
tout
ça.
Tout à fait. Voilà. Et ensuite, le lendemain.
Jeudi 30, oui.
Jeudi 30, on sera à la salle Pétrarque.
Salle Pétrarque, très connue à Montpellier. Donc,
tout à fait, en centre-ville. Chaque année, on investit la salle Pétrarque.
C'est entrée libre, il faut préciser pour les
auditeurs.
C'est gratuit,
entrée libre. Et là, on va rendre hommage à Albert Camus.
Encore un grand homme de la littérature.
Voilà, son engagement envers l'Espagne.
Et les Espagnols en exil.
Et les Espagnols en exil, qu'il a témoigné tout au long de sa vie, de sa courte vie, hélas. Et on va faire aussi une présentation d'Edmond Charlot, qui a été son premier éditeur à Alger.
Tout à fait.
Et tout ce sera animé par Jean Almarcha, et donc, qui est conseiller départemental. Il est d'Alger aussi,
oui.
Hein, il est d'origine, c'est un enfant de l'exil, et on travaille avec lui aussi depuis plusieurs années sur ce côté enfant de l'exil. Oui. Et donc, c'est important pour nous de montrer les valeurs que portait Camus, justement, par rapport à tout ce que j'ai décrit, par rapport à la banalisation des combats. Et donc...
Lui, l'exil, il connaissait bien.
Tout à fait. Et sa mère était espagnole.
Oui, alors pour les auditeurs qui l'ignorent, tout le nord de l'Afrique était peuplé énormément d'Espagnols.
Bien sûr.
Il y a les Français, ils oublient, vous savez, ils ne sont pas très bons en histoire. Ils s'imaginent que...
Il y a un géographe.
Le Maroc, c'était français. Mais non, et le nord. Tout le nord, c'était espagnol, bien entendu. Oui. D'ailleurs, on a toujours Ceuta et Melilla. Non, mais au Maroc, on a encore Ceuta et Melilla, qui sont des enclaves espagnoles au Maroc. Voilà. Alors, on va accélérer un petit peu, parce qu'on parle, on pourrait parler des heures avec vous. Hein. Vendredi 1er décembre, cinéma et poésie engagement contemporain en Espagne. Ça se passe où?
Alors, ça se passe dans l'auditorium du musée Fabre. Et le vendredi 1er décembre, donc, en partenariat et en soutien à SOS Méditerranée, on va parler de l'exil et de la Méditerranée comme cimetière.
Oui, et comme notre mère commune, comme on dit. Hein.
Oui,
c'est
tout à fait.
Notre mère commune, des deux côtés de la Méditerranée.
Voilà. Et donc là, on a la chance d'accueillir un artiste visuel dont on n'est pas habitué en France et qui va nous présenter une œuvre. Sur justement le désastre de la Méditerranée et de l'exil, et donc à la fois d'un point de vue politique, stratégique, mais aussi d'un point de vue artistique. Voilà.
Et puis on va terminer, je me presse un petit peu, parce qu'il y a tellement d'événements, il faut qu'on ait le temps de tout dire. Alors il reste, on est au dernier jour, le samedi 2 décembre, mais les auditeurs, allez sur le site, vous aurez tout ce qui se passe et à quel moment et comment qu'on y va, etc.
Donc le 2 décembre, trois temps forts avec Arias et Picasso, c'est-à-dire le regard d'Arias, l'ami de Picasso de la fin de sa vie, sur Picasso et comment ensemble ils ont milité et aidé les Espagnols en prison à résister à l'oppression. Et ensuite, il y aura un autre temps où Vicente Pradal va nous faire une présentation. Vicente Pradal, son arrière-grand-père est instituteur de Garcia Lorca.
Ouais.
Et Vicente, c'est aussi un grand chanteur de flamenco.
Donc il va parler un petit peu de cette histoire tragique encore de Federico Garcia Lorca.
Voilà, et le discours de Lorca à l'ouverture de la bibliothèque de Fuente Vaquero, voilà. Où il disait qu'il plaçait la culture au cœur de la République.
Voilà. Et hélas, il a disparu à Grenade, hein, comme on dit. Il a été tué, tout simplement.
Il a été assassiné.
Assassiné.
On va dire les mots assassiné par le fascisme.
Ouais.
Voilà.
Et puis dernière chose, et puis on va laisser les auditeurs après une foule d'informations.
Et le dernier temps, ben, ce sera notre ami poète Antonio Orihuela, l'animateur du courant de la conscience critique en poésie qui se fixe comme objectif de travailler à la transformation sociale, qui clôturera par un petit récital de poésie, un grand récital de poésie, pardon.
Eh bien, merci.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Gracias para todo.
Gracias.